Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Il est de ceux qui n'ont pas un parcours classique, on pourrait le qualifier d'atypique, peut-être. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça le jeu de la vie ? Que tout soit possible et imprévisible. Entrer dans le monde du social à 20 ans, parce qu'on appelait les emplois jeunes, il est aujourd'hui, 25 ans plus tard, directeur de 5 établissements qui réunissent pas moins de 35 mineurs et 170 majeurs accompagnés et pris en charge par ses services et équipes au quotidien. Dans cet épisode, empreint d'humilité, vous retrouverez sa philosophie ainsi que son regard novateur et bienveillant. Je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Bonjour Najid et bienvenue sur La Voix des Invisibles. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans un premier temps, donc, je vais te laisser la parole pour te présenter. Dire de quelle formation initiale tu es et depuis quand tu es diplômé ou en tout cas depuis quand tu œuvres dans le social.
Bonjour Camille, eh bien, merci pour ton invitation. Pour me présenter, vaste question. je m'appelle Najid, j'ai 45 ans. Je suis dans le secteur social depuis environ 25 ans, depuis pratiquement toute ma carrière professionnelle. J'ai pas de formation initiale. J'ai un parcours un petit peu déconstruit ou atypique. Je sais pas comment on peut dire. Ma formation initiale, c'est un DUT de biologie appliquée en industrie alimentaire. Voilà. Bon. Comme quoi, ça mène à tout.
Donc, tu as fait ça après le bac, du coup,
c'est
le DUT.
C'est ça. Sans conviction particulière, j'étais assez bon au niveau scolaire. J'étais en scientifique au niveau du bac. Okay. Je suis parti sur de la biologie, IUT de biologie. Bon, voilà, le cursus sans réflexion profonde derrière. Moi, ce que j'aimais, c'était plutôt les animaux, la science. Enfin, voilà. Mais du coup, je me suis retrouvé dans un cursus où on faisait de la biologie appliquée, c'est-à-dire technicien de laboratoire. Pas de relation vivante avec les gens. Voilà, des éprouvettes, des tests toute la journée les mêmes. Donc, ça ne m'a pas du tout concerné.
D'accord. En fait.
Voilà. Et puis, à cette lointaine époque, on avait un service militaire à réaliser. Okay. Je suis parti des presque derniers à avoir eu cette contrainte, qui pour moi aura été salutaire, parce que je me suis retrouvé à faire un service civil.
D'accord.
Donc c'est l'ancêtre du service civique, on peut le dire comme ça. C'était pendant presque un an. Des appelés de l'armée étaient mis à disposition des associations dans le civil pour travailler dans le contrat de ville, la politique de la ville. Donc c'était quand même tourné autour des quartiers prioritaires, on va dire. Et j'ai déjà commencé à me démarquer, puisque moi j'étais le service civil chargé de gérer et de placer les services civils dans les autres associations. Donc,
okay.
Je travaillais dans un service de l'État. Et donc, j'étais gestionnaire des... Donc, ça m'a plu déjà parce que je rencontrais les gens, je faisais des entretiens.
Contact humain, il était là. Okay.
Connaître toutes les associations du secteur ou les institutions que je découvrais complètement. Moi, avant ça, je ne savais pas ce qu'était une assistante sociale. Je n'en avais jamais entendu parler, je veux dire.
Ok, d'accord. Tu découvres le monde...
Complètement. Et là, je découvre qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui se font plaisir, quoi, parce qu'ils sont dans un boulot que j'avais envie de faire.
Quoi. Ouais, ok.
Donc voilà, j'ai fait mon année, je me suis fait un gros réseau, je suis allé visiter partout en mode curieux de nature, je me suis J'ai découvert le tissu social de l'agglomération de Genève.
Ok, d'accord. Parce que du coup, tu plaçais les services civils plus dans des institutions sociales ou est-ce qu'il y avait plein d'autres institutions
uniquement
possibles
du social,
uniquement du social. Okay.
Des centres sociaux, les associations, les services, les CCAS, etc. Bon, c'était vraiment dans. Il fallait que c'est un lien avec les publics. C'était politique de la ville, vraiment, le thème.
Ok. Oui, donc.
Donc, ça m'a donné un grand, grand carnet d'adresses.
C'est sûr.
Et okay. Puis. Voilà, le chemin. L'histoire a fait que. A été créé un dispositif qui s'appelait les emplois jeunes.
Ok.
Pratiquement le mois où je sortais de mon service civil, se créaient les emplois jeunes. Et emplois jeunes, c'était des contrats aidés par l'État pour des jeunes de moins de 25 ou 30, je ne sais plus. Et c'était un CDI, pas besoin d'être qualifié, pas de formation initiale. L'employeur était aidé, mais il s'engageait à former son salarié.
Voilà. Ok.
C'était un statut, un type de contrat emploi jeune. On nous appelait les emplois jeunes. Hein.
Ok, c'était le terme un peu.
C'était devenu un peu.
Okay.
Le statut prenait l'office de la fonction. C'était un peu bizarre. Et donc, j'ai été un des premiers emplois jeunes de l'aglo, quoi.
Okay.
Un des tout premiers, hein, dans les premiers contrats. Et puis, ben, donc, mon service civil m'ayant donné un bon carnet d'adresses, j'avais écrit genre une cinquantaine de lettres pour trouver un emploi jeune et j'avais reçu pas mal de réponses, pas seulement sur Dijon d'ailleurs, j'avais visé un peu large. Et ben, dans la foulée, j'ai démarré un contrat dans un centre, dans un chantier d'insertion qui démarrait basé sur le maraîchage et qui livrait des colis de légumes à ses adhérents.
Quand tu dis qu'il démarrait, c'est-à-dire qu'il ouvrait, c'était le début.
C'est une création. Ouais.
Okay,
il venait d'ouvrir. Les premiers travailleurs démarraient tout juste, voilà. Et puis, bah, mon métier, c'était emploi jeune, c'est-à-dire.
C'était quoi tes missions, du coup, l'émission de l'emploi jeune.
Un chantier d'insertion, c'est simple, c'est un encadrant technique. Donc, qui est branché maraîchage, voilà. Un travailleur social, qui est branché insertion professionnelle, accompagnement. Puis après, il y a tout le reste. C'était pour moi. Ça veut dire que je faisais de la communication. Je me débrouillais avec le réseau d'adhérents pour trouver des nouveaux adhérents, des clients, en fait. Quand je dis adhérents, c'était des personnes qui récupéraient après des légumes, des paniers. Je faisais de l'encadrement de personnes, des livraisons, je faisais de la com, de l'animation, je organisais les portes ouvertes, je faisais un petit journal toutes les semaines qu'on glissait dans les paniers.
Okay.
Je pouvais être amené à... C'était un peu fourre-tout.
C'est des missions hyper larges, du coup.
Très large, ouais. Voilà. Quand je suis parti, ils ont embauché 3 personnes pour me remplacer.
Ah oui, effectivement, ils se sont rendus compte.
Le problème, c'est que voilà, j'avais un champ d'action tellement large que c'était pas évident de trouver qui d'être capable de faire un peu de tout et de passer de l'un à l'autre sans arrêt. Mais voilà, moi j'avais la jeunesse pour moi et puis l'envie, de partir à zéro et de toucher à tout. Et puis, bah, ça m'a emmené à la question de la formation.
Oui.
L'idée, alors. C'est un point particulier dans mon histoire, c'est que j'aurais dû faire éducateur spécialisé à ce moment-là. C'était ce qui m'animait, ce que j'aurais voulu faire. Voilà. Et une personne, une mauvaise personne, m'a dit « Tu ne seras jamais travailleur social, tu ne seras jamais éducateur, c'est pas fait pour toi, tu n'es pas là pour ça. Non, moi je te vois bien animateur, fais un diplôme d'animation. » Alors, il faut savoir que cette personne, elle était travailleur social, entre guillemets, elle avait la fonction de travailleur social sur le dispositif, mais n'était elle-même pas diplômée, elle était venue par un chemin un peu particulier. Et il y avait quelque chose de l'enjeu de concurrence, de si les outils arrivent, je pouvais pas la dépasser, c'était elle qui était la savante, celle qui sait, qui me donnait et qui me disait. Moi, j'étais encore très jeune dans ma carrière, j'ai commencé à travailler très jeune à 19 ans. Cette personne était conseillère en insertion, en fait. Donc, elle m'avait donné Donc, c'est des conseils. Donc, mais bon, c'est pour dire que j'ai jamais complètement digéré cette personne qui m'a dit tu seras jamais travailleur social, voyons. Bon, on va voir la suite de mon parcours, lui a donné tort.
Je veux pas trahir de secret maintenant, mais est-ce que tu as envie de lui envoyer un petit courrier du coup pour lui dire
Non. Quelqu'un qui a essayé de reprendre contact avec moi à plusieurs reprises, j'ai jamais répondu. Je donne pas de valeur à ces personnes. Puis en plus, c'était pas une intention malveillante, c'est son parcours à elle à cette époque-là qui fait qu'elle a dit ça. Mais c'est un exemple de à quel point c'est une phrase dite comme ça.
Oui, c'est un impact.
25 ans plus tard, je suis en train d'en parler.
Ouais, non, évidemment.
Voilà.
Donc, c'est un impact.
C'est un exemple à garder en tête pour tout le monde. Donc, j'ai fait un DEFA, qui est un diplôme d'État aux fonctions d'animation, qui est un diplôme niveau 3. Comme EDUXP, comme assistant social,
okay.
Mais dans l'animation. Donc, c'est pour être animateur, gestion de projet, directeur de centres sociaux, des choses comme ça. Formation très longue, très difficile à boucler, donc avec une partie théorique, une partie pratique.
D'accord.
Alors,
tu t'y retrouves, toi, dans cette...
J'ai fait la partie théorique en un an et j'ai eu d'excellentes notes. Ouais. Donc, c'était une facilité. Et j'ai pas fait la partie pratique qui me demandait de faire un an et demi de 18 mois d'expérience professionnelle avec un mémoire à rendre, etc. Mais j'ai changé de travail très rapidement dès mon retour de formation.
Okay.
Et puis après, ça se correspondait plus à ce que je faisais. Donc j'ai jamais finalisé ce diplôme.
D'accord.
Voilà. Donc quand je suis revenu du DEFA, non seulement j'avais envie de bouger, enfin de d'évoluer, mais en plus j'ai commencé à comprendre le fossé qui me séparait de de certains de mes collègues.
Okay.
Donc ça s'est très mal passé mon retour et donc j'ai très vite quitté le chantier d'insertion.
D'accord. Et là dans ce chantier d'insertion, donc où tu dis qu'il y avait une conseillère en insertion, il y avait des travailleurs sociaux, des éducs, des assistants sociaux,
l'équipe était réduite. Hein.
Okay.
C'était donc il y avait un directeur mais qui était très très absent, un technicien maraîcher quoi, encadrant technique, voilà, qui encadrait sur le terrain, et puis une travailleuse sociale, c'est tout.
Ok, donc oui, là à ce moment-là, t'as pas encore croisé. Ou peut-être pas forcément croiser peut-être de loin, mais en tout cas travailler aux côtés de travailleurs sociaux. Donc c'est encore difficile là de se représenter vraiment quelles sont les missions, qu'est-ce qu'ils font, etc. Comment ils sont formés.
Je ne connaissais absolument pas le diplôme d'éducateur spécialisé ou le métier ou les métiers de l'éducation spécialisée par exemple.
Ok.
J'en avais aucune idée. Voilà. Donc bon, moi de toute façon le but était d'avoir un diplôme, continuer à faire ce que je faisais, ça me plaisait, voilà. Mmh. J'ai pas cherché beaucoup plus loin que ça à l'époque. Mmh. Mais oui, j'ai un petit regret, enfin un regret, c'est du temps perdu un petit peu.
Ouais, après c'est toujours formateur de passer par des tours et des détours certainement, mais
Et puis j'ai pas de regret parce que le chemin que j'ai suivi m'a emmené là aujourd'hui. Si j'avais changé quelque chose à ce moment-là, je serais peut-être dans une autre, un autre circuit. Donc, c'est le bon, c'est mon circuit à moi, il me va.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça, j'ai pas de regrets, hein. C'est pas le terme, c'est pas ça. Mais voilà, c'est dire l'impact d'une petite phrase, de décision. Voilà.
Bien sûr.
Mais ça me renvoie aussi à l'impact de nos conseils et nos décisions envers les personnes qu'on aide ou qu'on accompagne. Mm-hmm. Et à quel point ça peut, plus qu'on l'imagine, avoir un impact.
Bien sûr, et du niveau d'information qu'ils ont accès et que nous, on doit avoir envers eux, évidemment. Ensuite,
et donc, la suite, c'est que je suis parti en région parisienne.
Ok.
Dans un centre maternel.
Ok.
Et ça a été la révélation aussi. Hein, mais vous allez voir. Je m'émerveille de peu. Tout me paraît merveilleux. Donc vraiment là, j'ai plongé dans le monde du travail social.
Ouais, là c'est pur et dur du coup.
Avec des éducateurs, une directrice, une chef de service. Or ce qui est drôle par contre, c'est que c'était justement une directrice, une chef de service. des éducatrices, 5 ou 6, une éducatrice jeunes enfants, une crèche avec des puéricultrices, une directrice, 32 mères avec des enfants de moins de 3 ans, et un homme, moi.
T'avais quelle fonction, toi, du coup, dans ce centre maternel ? C'est vrai qu'en plus, à l'époque, c'était centre maternel. Ça fait pas très longtemps que ça a changé en centre parental. Mais oui, donc c'était un lieu très féminin.
Et toi, du coup... Extrêmement féminin. Il y avait un agent technique qui faisait qui réparait les siphons.
Donc on était deux.
deux représentants. Voilà, c'était un rôle important. Alors, j'avais une double fonction. J'étais animateur et chargé de l'emploi.
OK.
De l'insertion professionnelle, l'accompagnement emploi. Du coup, la partie animation, bon, très classique, hein, j'organisais des temps collectifs sur le foyer, etc. C'était vraiment un foyer d'hébergement en regroupé, tout ce qui est le plus classique. Pas mal d'animations autour de la parentalité, l'art du conte, le sommeil des enfants, des tas de choses comme ça, voilà.
D'accord.
Moi, j'avais jamais vu un enfant de ma vie, mais...
mais je vais vous dire comment il faut le faire dormir.
Voilà.
Non, mais d'accord, je comprends le...
Sans faire de trop de digressions, mais là, je me suis rendu compte à quel point on peut être exigeant avec des gens en leur demandant un degré de perfection que personne n'atteint dans la vie normale.
D'accord.
C'est-à-dire qu'une mère avec un enfant qui est sous le regard croisé d'une dizaine de professionnels sur sa façon d'éduquer son enfant, c'est un drame, hein. Je veux dire, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'elle s'est absentée de sa chambre pendant 3 minutes en laissant l'enfant tout seul, pouf, c'est un blâme, quoi.
Okay. Enfin,
c'est incroyable. Ce que nous, on s'autorise, on le tolère pas chez la personne parce qu'on est en train de jauger en permanence sa qualité.
Parce qu'on est en train d'évaluer tout le temps.
Voilà, et il faut savoir relativiser,
quoi. Bien sûr.
Voilà. Alors, je dis pas que c'était pas le cas. Hein, mais ça m'avait renvoyé ce souvenir de ce travail-là. Et puis sur la partie insertion professionnelle, je faisais de l'accompagnement à l'emploi, tout simple, des CV, préparer les rendez-vous, apprendre aux personnes à être à l'heure, réfléchir à des parcours professionnels, etc. Me mettre en connexion avec le réseau local.
Okay.
En région parisienne, c'est foisonnant, donc pas de problème. C'était beaucoup de personnes, de femmes qui venaient de pays d'Afrique noire. Et donc elles étaient là parce que... le lien avec l'enfant pouvait poser une difficulté et 90% travaillaient comme babysitter chez les autres. Gardez. On les soupçonnait de pas trop savoir gérer leur gamin et donc on les plaçait en foyer.
Mais en fait.
Et on les embauchait chez nous pour garder nos propres enfants.
Ouais, voilà. Okay.
Ça, c'était la petite contradiction aussi, le paradoxe. Voilà. Donc c'était quelque chose d'assez sympathique. J'ai un très bon souvenir de ce centre maternel, de cette expérience, avec une chef de service qui a vraiment été une des premières chefs de service avec qui j'ai un très bon souvenir, qui m'avait... qui voyait un peu d'avenir en moi.
Donc là, tu rencontres une personne qui, à un moment donné, voit tes capacités, voit ton potentiel et peut-être ton courage.
Oui.
Ok.
Qui m'a dit qu'un jour je gérerais des équipes, que je serais directeur un jour, voilà.
Ok,
oui.
D'accord.
Et j'avais même pas 25 ans.
Ok.
J'avais 25 ans. Voilà, donc ça c'était quelqu'un d'une grande perspicacité.
Ouais. on va lui attribuer ça.
Voilà.
on va pas lever le secret tout de suite, mais oui, effectivement,
non,
elle a
vu juste. Je dis sans plaisanter.
Non, bien sûr, elle a vu juste, du coup.
Et de là, c'est vrai que là, à partir de cette expérience, je me voyais comme éducateur, quoi. Alors, je me voyais comme référent de situation, parce que j'étais pas référent là-bas. Il y avait les éducatrices qui étaient référentes, et moi, j'étais en plus. J'étais le service technique emploi qui vient en plus, comme ça. Mais j'avais pas, moi, la responsabilité d'une situation complète.
Ok, tu prenais pas une situation d'un point A pour l'emmener à un point B.
Non,
toi, t'étais à un moment donné, ponctuellement, dans la situation, t'intervenais pour des coups de pouce sur l'insertion ou au collectif sur l'animation.
C'est ça, très exactement, ouais.
Ok.
Et puis, pour des raisons personnelles, je suis revenu sur la région... de Dijonnaise, Et donc, je suis arrivé à Dijon dans un centre d'accueil d'urgence.
Ok. Est-ce que tu peux préciser les missions du centre d'accueil d'urgence un petit peu pour ceux qui n'y connaissent rien ?
Donc, c'est un foyer d'accueil d'urgence. C'est un lieu où les personnes qui sont sans domicile peuvent venir dormir à tout moment. Il n'y a pas d'attente ou de vous savez pas où dormir ce soir.
Ok.
Il y a une place pour vous.
D'accord.
Donc c'est vraiment de l'accueil inconditionnel avec des guillemets parce qu'il y a toujours des conditions, un minimum de conditions, mais il n'y a pas de démarche à faire pour y accéder, etc. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle le 115 parce que ça s'est mis en place pendant que j'étais là-bas.
Okay.
Le 115, donc c'est un numéro gratuit. On appelle le 115 et le 115 vous attribue une place d'accueil d'urgence.
Mm-hmm.
Et à Dijon, c'est un centre particulier qui gère le 115 et qui accueille pratiquement physiquement toutes les personnes.
Okay.
Donc c'était géré par une association qui c'est tout un parcours quand même. Cette association ne recrutait pas les gens sur diplôme.
D'accord.
Elle recrutait les gens sur la personnalité, sur le ressenti qu'ils avaient, voilà. J'avais pourtant passé, je me souviens, 3 entretiens avec 2 personnes, donc 6 3 fois 2.
Ouais.
De recruteur, donc ils prenaient le soin, j'avais fait un écrit, ils demandaient beaucoup de choses,
mais de
le diplôme n'était pas du tout la porte d'entrée. Moi, je vous rappelle, j'avais toujours pas de diplôme, à part mon DUT de biologie, puisque j'avais pas fini le DEFA.
Ok.
Ils m'ont recruté sur le fait que j'avais de l'énergie, envie, et que je comprenais à peu près quand même ce qui se passait. Ça a été très formateur parce que donc un centre d'urgence comme celui-ci, vous avez des gens qui arrivent en permanence dans des états divers et variés, beaucoup de personnes alcoolisées, des personnes un peu agressives, ou en tout cas dans très très grande souffrance, c'est un lieu de souffrance absolue. Alors je fais un petit aparté sur le terme de SDF parce que il y a la personne clochard qu'on imagine, il y a le punk avec les chiens, mais il y a aussi des gens qui sont entre deux trucs. Ils avaient un logement, ils dormaient avec chez leur conjointe qui les a mis dehors, puis comme ils ont pas de boulot en ce moment, l'intérim ça marche pas, ils savent pas trop où dormir, donc ils viennent là, puis ils repartent. Voilà. Il y a des gens qui sortent d'incarcération, puis c'est le temps de trouver une place quelque part. C'est des gens, des jeunes qui se retrouvent mis à la porte. Et puis, il y avait beaucoup de gens de passage.
Ok. Ce qu'on appelle les passagers.
Les passagers.
Ouais.
Alors, Dijon est sur une ligne, Paris-Marseille, Paris-Lyon-Marseille. Et puis au carrefour, même Est-Ouest.
Mm-mm.
Et donc, beaucoup de gens qui passent. Donc, on avait... ça peut donner une idée, on avait 2000 personnes par an,
okay.
500 Côte d'Orien et 1500 qui n'étaient pas de Côte d'Or.
C'est énorme, ok.
Et puis la règle était d'accueillir les non-Côte d'Orien uniquement 3 jours par an. Ils avaient le droit à 3 jours, donc ils restaient 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Et après
ils revenaient éventuellement s'ils n'avaient pas éclusé leurs 3 jours, mais c'était pour limiter l'installation dans la région de personnes qui sont d'ailleurs. Sachant que l'idée derrière ça, c'était de sédentariser un petit peu les gens.
Mmh.
Et l'idée est de les sédentariser plutôt dans leur département d'origine. Et le RMI, puis le RSA a beaucoup aidé à ça.
Okay.
Ça a donné des points d'ancrage aux gens. Parce que les gens qui sont en mouvement permanent, on ne peut pas les accompagner.
C'est difficile.
Voilà. On ne construit rien avec eux. Ouais. On ne fait que subvenir à un instant T, à un besoin primaire d'un toit à manger. Hop, ils repartent. Il y a des gens qui sont mis dans ce système-là. Système d'esquive ou de fuite en avant. Quoi.
Quand on ne peut juste pas avoir une adresse, c'est juste le début, la base, c'est compliqué. C'est effectivement. Clair. Toi, c'est quoi tes missions du coup dans ce foyer d'urgence ?
Alors là, j'étais pour le coup référent situations. On avait une double mission d'accueil d'orientation. Orientation des personnes, faire le petit diagnostic social, mettre en œuvre un projet d'orientation, solliciter des places en hébergement d'insertion éventuellement, ou en résidence sociale, etc. Et puis, il y avait la partie hôtellerie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on accueillait, nous, l'éducateur, à la fois, il accueille les personnes sur un plan administratif, social, éducatif, puis à la fois, il l'accueille physiquement pour le faire dormir là ce soir et qu'il ait un repas. Donc, on gérait aussi l'hôtellerie.
T'es en charge de toute la logistique attenante à l'hébergement.
Okay. Oui. Et le terme d'hôtellerie est juste parce que c'est des gens qui arrivent et qui repartent dans les deux jours. Donc, des lits à rééquiper, à changer, en permanence, des repas à commander pour le bon nombre de personnes, faire l'inventaire des places disponibles en permanence, parce que c'est un accueil inconditionnel en quantité aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a environ 30 personnes en permanence, il y a 40 places. Quand on monte à 40 ou 45, on est bien. Mais s'il y a 60 personnes qui se présentent un jour, il faut les accueillir. Donc, on avait une réserve de matelas qu'on mettait dans les couloirs, comme l'hôpital. Ouais. Voilà, c'est les urgences.
C'est l'hébergement d'urgence. Ouais, ça porte bien son nom,
On ne peut pas différencier, c'est le même système.
Et toi, tes premiers pas, du coup, dans... Bah, alors, tu avais fait le centre maternel, donc en termes de social, tu avais déjà apprivoisé un peu tout ça. Mais là... Sur de la grande exclusion, tes premiers pas sur la grande exclusion, qu'est-ce que t'en... comment tu le vis? Parce que en termes d'âge, t'as à peu près 25 ans, ce que tu disais tout à l'heure. À 25 ans, comment on gère justement des personnes qui vivent à la rue ou ont vécu à la rue, qui peuvent parfois être virulents, enfin, et que t'as pas eu tout cet étayage de la formation pour te donner un peu des repères et une expérience aussi via des stages.
Alors effectivement, pour l'étayage, on était dans une association qui prenait le compagnonnage, c'est-à-dire qu'on l'idée était qu'on allait apprendre par ses collègues, par son coordinateur chef de service. Voilà. Mm-hmm. Bon, la personne qui m'a accueilli était là depuis, enfin, le professionnel qui m'a accueilli était là depuis 15 jours et c'était mon stagiaire, en fait, puisque j'arrivais après lui.
Ok.
Donc, il était plus formé que moi, il était déjà en troisième année.
Ok.
C'est pour la...
Donc toi, t'étais le professionnel recruté sans diplôme parce que c'était pas une exigence, mais la personne qui t'accueille, elle est stagiaire et ça devient ton stagiaire.
On m'annonce que je vais être son son maître de stage, bien sûr. Rien ne me fait peur à ce moment-là.
Bien sûr.
Comment j'ai appréhendé ça? Avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que les personnes arrivent. Nous, on n'est rien, en fait. C'est des gens qui sont rien dans la société, et aux yeux de beaucoup de monde, en permanence. Et moi, je me suis retrouvé à l'inverse d'être vraiment rien par rapport à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils savaient ce que c'était la vie, la vraie... Voilà, moi, c'est très simple. Et je pense que ça a fonctionné parce que j'étais dans cet état d'esprit-là, dans ce rapport aux gens. C'est-à-dire, ni dans la plainte ou la... Pas dans la compassion ou dans le... Enfin, pas du tout, mais dans le respect, quoi.
Ouais.
Et puis, à pas trouver normal qu'ils en soient là. Voilà.
Okay.
Alors, c'est terrible parce que vous faites quelques années dans un centre comme celui-là, les choses se banalisent. Il n'y a plus rien qui choque. Ouais. On a vu des trucs. Mais j'ai fait des choses qu'on ne pourrait même pas décrire là au micro.
Okay.
C'est hallucinant ce qu'on peut voir, vivre... c'est un concentré, un concentré de la normalité.
Ok.
C'est terrible. Mais
est-ce que t'as un exemple là, quand même, pour illustrer et pour montrer aussi aux personnes qui nous écoutent tout ce qu'on peut être amené?
Je peux donner un moment qui m'avait mis très mal à l'aise et 20 ans plus tard, je l'ai encore en tête. Les personnes qui voulaient manger devaient rentrer avant 20 heures. Après, on servait plus de repas.
Ok.
Mais quelqu'un qui travaillait, par exemple. On encourageait les gens qui avaient une activité pour pouvoir partir du foyer avec des ressources, un logement.
Évidemment.
Ils nous prévenaient et du coup, on leur réservait un repas de côté. Et quand ils arrivaient à 20h30 ou 21h, on leur donnait leur repas. Et je me suis vu refuser un repas à quelqu'un qui venait d'arriver à 21h. En lui disant, non, c'est trop tard. Voilà. Et puis, 5 minutes après, arrive quelqu'un qui avait réservé son repas et puis qui me demande son repas, puis je lui donne. Et ça, le regard de la personne à qui j'ai dit non et qui me dit « mais c'est pas normal ce que tu fais là ». Ouais, voilà.
Ouais.
C'est compliqué, ouais,
c'est
à gérer.
Compliqué à gérer.
Voilà, ça c'est...
Il y a la règle et après il y a les humains en face. Ouais.
Mais si je donne à celui-ci, j'ai dit non à tous les autres qui étaient arrivés après 20h, est-ce que je leur donne tous du coup ? On n'a pas les repas pour tous ces gens, puisqu'on a commandé des repas pour un nombre donné.
Ouais.
Voilà, on gère ça tout seul.
Oui.
Sans formation pour le coup,
ouais,
dans mon cas, mais voilà un cas d'école.
Oui, c'est ça.
Et toi, qu'aurais-tu fait ? Voilà.
Qui pose un peu, oui, la question de, oui, de ta posture et puis de porter un peu le règlement de c'est fonctionnement ça. Et puis l'éthique que toi tu mets derrière.
Après, on, des exemples, bah, je sais pas, on recevait tous les jours des gens emmenés par la police, par le SAMU social, des gens qu'on mettait dehors qui revenaient par d'autres biais, des gens qui passaient par les toits, des gens. Quelqu'un qui se faisait séquestrer, agresser, séquestrer, qu'on emmenait porter plainte parce qu'on en arrivait à le convaincre, et puis qui posait sa plainte, puis après ne ressortait pas du commissariat puisqu'il il le cherchait, puis bah, puisque t'es là, on va en profiter. Voilà.
Ouais. Ok. Donc, je t'encourage à déposer plainte, mais je savais pas.
Et ben, on savait pas. Voilà.
Tu voilà. T'allais y rester. Ouais.
On nous a appelé des gens qui faisaient la circulation sur les ronds-points, des gens qui se rasaient le crâne tout seul, mais qui ça ressemblait plus à rien. Enfin, il fallait qu'on reprenne derrière.
C'est okay.
Tout et n'importe quoi. Très masculin. Des gens sans structure, enfin une bonne partie, et mais pas tous. Avec certains, j'ai aussi des très bons souvenirs de gens qui aidaient en fait, qui aidaient à apaiser l'ensemble, et qui étaient des, qui donnaient un peu le coup de main.
Enfin, ouais.
C'est un microcosme, c'est un voilà.
C'est ça.
C'est un monde, c'est un système.
Ça fonctionne où chacun a sa place, et puis il y a des.
Et je me souviens aussi que j'étais très à l'aise dans ce système, en plus en tant que maître des clés. Hein. Moi, j'avais les clés, c'est un symbole. Hein. Quand on a les clés, on est celui qui choisit, qui commande. Pour y être retourné très peu de temps après avoir changé de travail, me retrouver très mal à l'aise dans cet espace.
Ok.
Voilà. Dès qu'on sort de ce collectif, de ce groupe, de ce système, on n'y est plus à l'aise. C'est, voilà.
Est-ce que tu sais dire un peu pourquoi ?
C'est un mélange d'anormalité et d'appartenance, je sais pas. Donc on finit par appartenir au voilà. Et c'est vrai que je n'ai jamais plus été à l'aise avec ces publics.
Okay.
En dehors de ceux que je connais ou que j'accompagne.
Ok. Tu fais combien de temps du coup dans ce ?
J'y reste deux. Même pas deux ans. Si, une dernière chose, il y avait. C'est pour illustrer un peu.
Vas-y.
Mes souvenirs sont. Voilà. Il y avait une sonnerie. Faut imaginer ce foyer, c'est une cour, des dortoirs, mais un grand portail en métal. Parce qu'il y a la question de la sécurité. Hein. On est en permanence sollicité par des gens et des gens qu'on refoule aussi et qui sont très agressifs. Donc, bref, il y avait cette notion de grand portail. Avec une sonnette. Et la sonnette, c'est une vieille sonnette qui use un bruit incroyable. Et quand on travaille là-bas, le coup de sonnette, c'est déclenchement. C'est comme les pompiers qui descendent là-bas et qui partent. Ça sonne. Bon, je vais voir, c'est qui, pourquoi t'es là, quelle heure t'arrives, ouais. Vous voulez quoi, vous êtes combien, voilà. Et cette sonnette, il y a place du Barreuset à Dijon, un manège,
ouais.
Un carrousel.
Ouais.
Qui a exactement cette sonnette qui déclenche les tours de okay. Manège. Et je me souviens à chaque fois être passé au centre-ville et entendre cette sonnette et faire un bond de mètre et prêt okay. à réagir, qui c'est qu'on accueille, où est-ce qu'on va.
Ça te suit, quoi.
Oui.
Mais parce que du coup...
Pour en avoir parlé avec d'autres collègues, on avait tous remarqué qu'il y avait la même sonnette comme ça sur la place du Barreuset.
Enfin, voilà, c'est des choses qu'on traîne un peu dans notre quotidien quand même. Ouais. Effectivement.
Donc, au bout de deux ans, j'ai évolué dans la même association sur un CHRS, centre d'hébergement de réinsertion sociale, qui est l'étape suivante aussi pour les personnes. C'est-à-dire qu'après le passage en accueil d'urgence, pour un certain nombre, ils vont en hébergement d'insertion. Donc, le but là, c'est pas de dépanner rapidement. Voilà, c'est plutôt de proposer avec un support hébergement une prise en charge, on appelle ça prise en charge globale parce qu'on intervient sur tous les champs où il y a besoin d'intervenir, mmh. et d'accompagner la personne vers la sortie du CHRS, c'est-à-dire, alors, je vais dire un mot, attention, l'autonomie.
Grand, grand mot.
Voilà.
Oui.
Les accompagner voilà, vers une certaine autonomie, en tout cas une certaine vision d'autonomie, un logement à soi, des ressources, voilà. Et donc ça, c'est des prises en charge qui durent entre 6 mois et 15 ans, hein, j'ai envie de dire. C'est très, très vaste. Il y avait des gens, à cette époque-là, il y avait aussi des prises en charge très très longues, ce qui ne se fait plus tellement. Mais donc un CHRS en diffus, c'est-à-dire qu'on n'hébergeait pas les gens en foyer tous ensemble, mais dans divers logements sur l'agglomération. Donc c'était des personnes issues en grande partie de l'accueil d'urgence que je venais de quitter, donc des personnes avec des difficultés sociales très importantes. Alors la liste de Prévert, quoi, hein, des problèmes d'alcool, de santé au sens large, de justice, d'endettement, d'insertion professionnelle, de sous-qualification, d'employabilité très difficile. Quand vous avez fuck tatoué dans le cou, c'est pas très engageant.
C'est pas hyper engageant, effectivement.
Vous avez 4 chiens et.
Pour aller travailler sans hébergement, c'est compliqué. Donc, c'est un concentré de tout ce qu'on peut retrouver un peu éparpillé dans certains services que toi, du coup, tu retrouves chez ces personnes. Tu retrouves des gens que tu as accompagnés sur l'hébergement d'urgence, sur le CHRS ?
Un petit peu, mais très vite, le turnover fait que non.
Okay.
Donc, il y avait quelques personnes que j'avais croisées, mais ça c'était assez vite, ça. Mais je retrouve toujours aujourd'hui les archétypes que j'ai rencontrés à l'accueil d'urgence. C'est très bien de commencer par l'accueil d'urgence dans une carrière. C'est
formateur, ça.
C'est hyper formateur. C'est le concentré. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Mm-hmm. C'est un très bon endroit pour démarrer. On s'y brûle vite les ailes. Faut pas y rester, je pense. C'est bien d'avoir du mouvement comme ça, était le cas. J'ai retrouvé plein d'archétypes, plein de grands classiques, entre guillemets.
Okay.
Même si chaque personne est extrêmement différente et a son parcours et à un instant T en plus, évolue dans le temps, mais c'est des grandes lignes qui se tracent.
Est-ce que ça te plaît, toi, du coup, ce que tu fais sur le CHRS ? Est-ce que tu trouves un peu ton compte ? Est-ce que
complètement.
Tu découvres encore plus ?
C'est l'endroit où je suis resté peut-être le plus longtemps, d'ailleurs. J'ai dû rester 7 ans au CHRS. Ça m'a énormément plu. J'ai vraiment été là dans le travailleur social très en phase avec les personnes accompagnées, de très bons retours de la part des personnes accompagnées.
Okay.
Ça m'a toujours été le plus important, plus que
c'est l'ultime gratification.
Ouais.
Hein.
Ouais, et puis des gens qui, alors il y a quand ils vous le disent. Là, dont vous, pendant qu'on est en train de l'accepter ou pas, de leur filer 10 balles, donc c'est sûr que c'est pas la même.
Mm-mm.
Mais après coup, un tel m'a dit qu'il pensait de ça de toi, des choses comme ça.
Des gens qui reviennent te voir
Il y a des gens de cette époque que je croise à Dijon qu'on continue de se dire bonjour.
Ok.
Voilà. Et qui se rappelle de mon prénom.
Ah ouais, donc c'est que tu marques un petit peu. Non, mais on en plaisante comme ça, mais juste pour reclarifier les choses, on n'a pas d'autres gratifications, moyen de savoir si les gens sont satisfaits de la prestation, entre guillemets, qu'on leur offre. Et c'est le simple merci ou le simple bonjour quelques années ou mois après, dans la rue, nous disent, on n'est pas la personne qu'ils essaient d'éviter. Donc, et quand ils nous demandent, et tu vas bien toi, on se dit, je vais bien, je te remercie. Et voilà, ça fait toujours plaisir.
Et ils ont un classement et ils nous conseillent aux autres ou pas.
C'est ça.
Ce qu'ils disent aux autres, c'est hyper important. Je l'ai entendu encore cette semaine. Lui, tu verras, il est comme ci et comme ça. Et en trois mots, ils sont tellement justes qu'on peut pas. Mais voilà, c'est vrai. Et en tout cas, ils sont juste dans. C'est comme ça qu'ils nous ont ressentis. Donc c'est sûrement ce comme ça qu'on doit être, même si c'est pas ce qu'on imagine. Mais vraiment, je crois qu'il y a... Oui, c'est un peu top chef, hein, il nous note, hein, il nous évalue aussi. C'est bien, et c'est dommage qu'on n'ait pas plus, d'ailleurs, cette évaluation, on devrait en prendre plus, prendre plus en compte. Je crois qu'ils ont... Mais le problème, c'est de réussir à distinguer quelqu'un qui on refuse ou qu'on a, il y a un problème et il nous le reproche. Donc à ce moment-là, il va dire on est le pire des enfoirés et puis on fait un truc bien qui marche bien et il nous attribue le mérite. Puis ça y est, on est le meilleur. Donc il faut réussir à sortir de ce travers-là. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui. Enfin bon, moi je me suis toujours, en tout cas, j'ai toujours eu l'oreille au retour que me faisaient les personnes. Ça, c'est important.
Effectivement. Du coup, tu es dans ce CHRS, tu disais, à peu près 7 ans. Oui. Tu n'es toujours pas diplômé.
Exactement. Et c'est là que la VAE apparaît.
Donc, validation des acquis par l'expérience.
Exactement. Et donc, j'ai aussi été dans les premières... l'association où j'étais avait beaucoup de salariés non diplômés, donc a fait des wagons de VAE à ses salariés. On partait 3 par 3 tous les ans. Et donc, c'est comme ça que j'ai enclenché ma validation de mon diplôme d'éducateur avec une expérience certaine derrière moi, donc pas volée, hein, sur le coup. J'ai pas encore parlé de légitimité. J'ai bossé non diplômé pendant toutes ces années et ça, c'était un problème pour moi. C'est-à-dire que je me considérais illégitime, un petit peu imposteur, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'avais un petit conflit intérieur, un petit complexe là-dessus.
Parce que tu penses qu'avoir un diplôme était l'espèce de passe-droit, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui te manquait par rapport à toute l'expérience que tu avais eue.
Ouais, c'est-à-dire que on est passé d'un système social où travaillait n'importe qui et faisait n'importe quoi à un système, et avec une bonne intention, de dire on diplôme les gens, on les forme. Il y a une base commune, ils vont parler un langage commun, ils vont avoir appris des bases qui semblent indispensables, etc. Donc on a diplômé et... Je suis arrivé à la fin de l'ère où on rentrait comme ça dans le social, parce que on avait envie.
Oui.
Et puis, je suis arrivé juste à la fin de cette ère-là, et puis j'ai rencontré cette nouvelle ère où il fallait être diplômé. Sauf qu'à partir de là, t'es quoi? T'es éducateur. Mais t'es pas diplômé. Non, t'es pas éducateur, du coup. L'éducateur, mais tu ne l'es pas. Et on retrouve souvent ça, la différence entre la fonction et le diplôme. Dans une équipe pluridisciplinaire où vous avez 4 ou 5 travailleurs sociaux, il peut y avoir 4 éducateurs et une assistante sociale ou un assistant social. Est-ce que ça fait de lui l'assistante sociale? Non, il est travailleur social. Quel que soit, il pourrait y avoir une conseillère ESF en économie sociale et familiale ou n'importe quel autre diplôme, on s'en fiche. Ils ont une fonction. Sauf qu'il y a encore cette tendance à vouloir utiliser la fonction, mélanger le diplôme et la fonction. On a 3 éducateurs et une assistante sociale qui fait des missions d'assistante sociale à part. Voilà, et les éducateurs font l'éducatif, eux. Bon, moi, j'étais là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait des éducateurs. Moi, j'en faisais partie de ce groupe, mais sans être diplômé. Donc, j'y appartenais un petit peu. Il y avait comme un biais. Personne ne me le faisait ressentir, ça. Hein,
c'est
moi.
C'est ce que j'allais te demander. Seul, hein, si,
c'est un problème de... Ouais. Voilà, moi, sachant que mon parcours m'a emmené là un peu en prenant des opportunités, en suivant le vent. En tout cas, voilà, le fait de d'avoir un diplôme, ça a été pour moi, ça y est, ma carrière démarrait.
Vraiment. Alors que tu as une expérience...
Malgré tout, je l'ai eu en trichant un peu, puisque moi, je ne l'ai pas fait 3 ans d'école, mais j'ai rendu un écrit et j'ai la même chose que ceux qui sont tapés les 3 ans d'école. Malgré tout, j'ai encore un... c'est pas vraiment ça, mais c'est comme si j'avais un sous-diplôme d'éducation par rapport à d'autres. Enfin, voilà, il y avait un petit peu encore ça, mais quand même, je l'avais. Puis j'ai bataillé pour l'avoir, donc je pense l'avoir mérité, il n'y avait pas de souci.
Oui, parce que si on explique un petit peu la VAE, tu dois produire finalement ce que produisent les étudiants qui sont en formation, mais à partir de ton terrain, voilà, enfin à partir de ton lieu de travail, ou en tout cas de situation que tu as déjà rencontrée. Donc l'exercice, au contraire, moi je trouve qu'il est plus difficile parce que tu es peu encadré, tu peux te laisser un peu porter par les apports théoriques que tu as, tu peux prendre le temps de tout ça. En VAE, tu n'as pas forcément ce temps qui t'est dédié pour avoir du contenu théorique. Et du coup, ce qui te demande beaucoup plus d'autonomie et un choix hyper personnel et individuel de dire « je vais passer ma VAE pour me diplômer ». Et bah, je rentre pas dans un cursus où je vais être portée par toute une promo d'étudiants, où on va échanger, etc. Là, toi, tu peux échanger avec ton équipe, à la limite, mais ça reste quand même des écrits que tu dois faire toi, où tu dois relever ce qui s'est passé dans ta pratique. Et c'est une autre démarche, vraiment.
On va voir à quel point... j'ai à ce moment-là 30 ans, on est en 35, on est en 2011, j'ai mon diplôme, j'ai toujours pas foutu les pieds à l'école, quoi. Quand même. J'ai fait un peu de formation d'EFA, où c'est quand même un peu plus orienté animation, voilà.
Est-ce que tu as fait formations à l'interne?
J'ai eu quelques formations par-ci par-là, des petits trucs, mais j'ai pas lu, par exemple. Ça, c'est quelque chose dans mon parcours. Moi, j'ai pas lu tous ces ouvrages que le bon éducateur et la connaissance sociale doivent maîtriser sur le modèle. Voilà. Moi, j'ai validé tout ça par l'aspect pratique, c'est-à-dire que j'ai expliqué ce que je faisais comme travail concrètement. Voilà. Et on verra plus tard que pour moi, c'est mon parcours qui est comme ça et c'est ma personnalité. Donc bon voilà, ça on peut fermer cette parenthèse sur sur la VAE parce que je voudrais pas, j'ai pas de problème avec ça en particulier c'était plus pour
ça fait partie de ton
d'écrire,
parcours quoi.
Et puis ça peut, d'autres personnes peuvent se reconnaître là-dedans hein, donc j'ai passé mon diplôme d'EDUXP et puis après cette expérience là toujours dans la même association, j'ai basculé sur un autre service qui intervient auprès des personnes à domicile.
Ok.
Alors c'était un service un peu difficile aussi parce qu'on allait auprès de personnes qui n'avaient pas demandé notre intervention, voire même qui la refusaient.
Ok.
C'était des gens en rupture d'accompagnement social, signalés par les bailleurs, par les services sociaux de secteur, les services sociaux classiques.
Ok.
Qui était en échec. Et nous, on était le GIGN du social. C'est-à-dire que nous, on allait y arriver.
Vous saviez mieux faire, c'est évident.
Sûrement. Eh ben, on faisait pas mieux, mais on faisait différemment.
Mais voilà, l'approche était
très clairement,
sûrement différente. Voilà, oui.
Tout le monde peut comprendre ça. Donc ça a été une super expérience. Parce que là, ça demandait une certaine... capacité, hein. Il faut y aller, il faut avoir les moyens. Mmh. Et là, j'ai pareil découvert un monde à part, quoi, des situations, mais les plus improbables les unes que les autres, des choses sidérantes, des gens dans des situations mais inimaginables.
Parce que tu interviens donc à domicile, donc en fait, c'est des personnes qu'on voit pas dans.
Très exactement. Ouais.
On les croise pas en ville, on les croise pas en hébergement d'urgence, non, on les voit pas. Tu peux, avant de nous dire, tu peux nous dire les problématiques et les profils des personnes. Est-ce qu'il y avait une tranche d'âge identifiée? Est-ce qu'il y avait des problématiques identifiées?
Alors, pas de tranche d'âge, c'était du 18-75 ans.
Ouais.
Ou plus même d'ailleurs. Là c'était le symptôme qui faisait déclencher l'intervention, c'est-à-dire qu'il y avait un trouble de voisinage, un trouble d'occupation, des troubles psychiques qui se faisaient voir, des travailleurs sociaux inquiets, des familles qui nous signalaient. Voilà. C'est des gens. Alors. Là, c'est très vaste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux situations identiques.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de problématique précise qui déclenchait. C'est le symptôme. Donc, la source était à chaque fois différente. Mais on avait typiquement, par exemple, des gens avec un syndrome de Diogène. Mm-hmm. Donc, syndrome d'entassement dans un domicile et qui se referme sur eux et qui se coupe du monde et donc qui refuse l'intervention. On avait des gens avec des grosses lacunes en tout. Voilà. Mais pour une raison ou une autre, qui réussissaient à garder leur logement. On avait des personnes, moi j'ai vécu des moments improbables. Hein. Or, en plus, ce service était au départ créé sur un quartier politique de la ville, sur un quartier sensible, voilà, difficile. Et puis après, c'est élargi à l'ensemble de l'agglomération. Donc on avait aussi beaucoup de gens de quartier.
Ok.
Avec un rapport à la règle très très variable, un rapport à la gestion du budget très variable, voilà. Donc des gens, bah là encore, hein, avec des problématiques de justice, de consommation, de troubles bipolaires,
et qui pouvaient additionner toutes ces problématiques.
Complètement, ouais. Ouais. J'avais un monsieur, c'est une situation qui m'a marqué, mais parmi tant d'autres, qui avait 75 ans, qui venait de Croatie, qui parlait plutôt bien, mais voilà, qui vivait sur 1,20 m de déchets dans son logement, dans un T3 ou T4. Les portes ne s'ouvraient plus et ne se fermaient plus, bloquées par les déchets. Donc, le plafond était bas, hein, du coup.
Ouais, j'imagine.
Voilà. Et puis, la totalité du logement était recouvert. Et puis, les voisins étaient tous. La voisine du dessous était en dépression complète parce qu'elle avait les odeurs qui avaient pourri son logement. Il urinait par la fenêtre directement dans la rue, donc les gens qui passaient en dessous. Enfin, mais il était propriétaire de son logement.
Oui,
et
donc
puis
on
il avait
une
retraite qui payait ses charges courantes. Mm-hmm. Donc c'est tout, puisque on peut pas forcer les gens. C'est-à-dire que vous venez lui dire mais ça va pas, il s'en fout et on peut rien faire.
Je suis chez moi, voilà.
Les services d'hygiène étaient bien impuissants face à ça, donc voilà, mon boulot était de créer le lien avec cette personne, qu'il accepte de me rencontrer très régulièrement, un peu au forcing, entre guillemets, enfin, de m'intégrer dans sa vie, en fait. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on utilisait des méthodes toujours sur le fil de la déontologie, c'est-à-dire, quelqu'un ne veut pas vous ouvrir la porte, on s'autorisait à y retourner, même il dit « ne revenez pas », on revenait. On mettait des mots sur la porte, coincé dans la porte pour voir s'il était venu le prendre ou pas. Ouais. On mettait des colis alimentaires qu'on accrochait à sa poignée de porte avec un petit mot dedans.
Okay.
On demandait au voisin, vous l'avez vu, vous savez pas où je peux le voir.
Ouais.
Est-ce qu'il a crié cette nuit? Alors, normalement, c'est délicat d'aller interroger les voisins parce que c'est presque faire le focus sur la personne, quoi, lui.
Et puis, du coup, il y a toujours le secret pro, tu te dis, est-ce que j'ai le droit, du coup, de me présenter au voisin pour lui dire que j'interviens auprès de ce monsieur? Ça veut dire que est-ce que ce monsieur, il est OK pour que ses voisins soient au courant? Enfin, ouais, il y a toute une question un peu éthique autour de
exactement.
Ça, ouais, bien sûr.
On avait des gens sous curatelle qui ne recevaient plus leur argent avec la carte. Ils ne pouvaient plus le retirer. Okay. C'est moi qui leur apportais. Donc, ils étaient obligés de me voir et de m'ouvrir.
Voilà. Du coup, tu pouvais travailler avec les...
Après, voilà, etc., etc. Donc, tout ça, c'est un peu limite. Alors, mon boulot était de savoir à quel moment on était du bon côté ou du mauvais côté de cette limite-là.
Hein.
On n'était pas seul, il y avait un travail d'équipe, etc. Mais voilà, le but était d'imaginer des façons... Si on faisait comme le travail social normal, ça ne marchait pas, donc ça ne servait à rien.
Mm-hmm.
Donc, il fallait trouver, aller au-delà.
Mm-hmm.
C'était vraiment très intéressant. Une expérience où j'ai dû être en responsabilité tout le temps, seul. Un peu tout seul parce qu'on était seul à se
déplacer. Oui, c'est ce que j'avais été demandé. Vous interveniez en binôme?
Non,
une situation intravailleur social.
Ouais, c'est ça.
Très peu de
cas où on allait à deux pour
c'est ce que j'avais
été demandé. En fait.
Question de sécurité, tu peux te dire on y va à deux, mais rarement finalement.
Ouais.
Okay.
Parce que c'était 40 suivis par travailleur social. Hein. C'était pas. Donc on n'a pas le temps de faire
40 suivis.
Ah, oui.
Non, t'as pas le temps de faire beaucoup de double, du coup.
C'est une expérience qui m'a fait. Acquérir les compétences pour être cadre, je pense. C'est-à-dire que j'avais un socle intéressant et cette expérience-là, j'étais en responsabilité en fait. Gérais mon groupe comme une petite structure, je devais prendre des décisions en permanence, en toute autonomie, avec mesurer l'impact. Gérer une stratégie d'intervention, gérer la gestion temporelle de mon groupe, etc. Enfin voilà. Donc ça, c'était J'avais de la gestion d'argent aussi, parce que dans ce service, on avait un budget alloué pour pouvoir faire des actions un peu différentes. Donc voilà, etc. Donc c'est vrai que ça a été une très très bonne expérience, très formateur aussi.
Oui, j'imagine. Et donc du coup, tu dis que c'est une expérience qui m'a un peu permis d'être cadre. Est-ce que après cette expérience-là, est-ce que en tout cas pendant cette expérience-là, tu t'es dit ah tiens, pourquoi pas ? À quel moment ça a basculé ?
Ça faisait déjà quelques années que je sentais que j'étais la prétention va être choquée. Modestie va être montrée, on va dire. Je pensais que j'étais un bon éducateur. J'étais très intéressé par le niveau institutionnel. Je me préoccupais du service où j'étais. Ouais. Déjà sur les expériences précédentes, j'ai adoré aller au conseil, aux journées associatives, les assemblées générales. Je m'intéressais. J'étais toujours la personne ressource pour les autres.
Tu voyais pas juste je viens, je travaille avec mes suivis, je parle un peu avec mon équipe et je m'en vais. Toi, t'avais du coup déjà pris tout le contexte.
J'étais la personne ressource pour mes collègues avec l'expérience que j'avais, mais aussi pour mes différents supérieurs hiérarchiques. Ouais. C'est-à-dire que dans l'équipe, ils avaient quelqu'un, une personne de soutien en permanence qui se préoccuper du fonctionnement, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est, je pense que j'étais déjà un peu à mi-chemin. Donc ça, c'est arrivé au cours des années, mais pendant cette expérience-là, oui. Et alors ça, en plus, c'était intense. Ça use un peu aussi ce genre de service. Faut pas le faire trop longtemps non plus.
T'y es resté combien de temps ?
4 ans.
Ok.
Je pense que c'était le bon moment d'arrêter et ça m'a usé un peu sur la partie travail social. C'est-à-dire que j'avais fait. C'est horrible de dire j'ai fait le tour parce qu'on n'en fait jamais le tour. C'est une mauvaise expression, mais l'idée est là. C'est-à-dire que ce que j'avais éprouvé là, pour moi, c'était bon. J'y mettais plus autant d'énergie, d'étincelles. Donc voilà, ça y est, c'était une page qui tournait. Et puis, il y a eu des opportunités, c'est-à-dire il y a eu des événements, il y avait un poste de chef de service, j'ai postulé, j'ai pensé être en bonne voie pour ce poste, ça s'est pas fait, du coup ça m'a un peu vexé, et je suis parti voir ailleurs, et puis j'ai décroché un poste de chef de service.
Ok, donc tu prends ton premier poste de chef de service à quel âge ?
Eh bien à 40 ans. Très exactement, l'année de mes 40 ans, ce qui est magnifique parce que moi je suis quelqu'un de de un peu carré, tout ça, et donc 40, cadre 1, c'est 4, c'est, voilà, donc carré,
je suis cadre à 40 ans, okay. Il n'y a pas du tout de psychorigidité.
J'étais cadre et cadre 1 en même temps, exactement. Donc à exactement 40 ans, en 2016, je suis devenu chef de service dans une autre association, dans un CHRS.
Retour
aux sources,
premiers amours, on va dire.
Ouais. Un CHRS en diffus, très proche de ce que je faisais dans l'autre expérience, mais avec une dominante jeune, c'est un CHRS pour les publics jeunes majeurs, 18-25 ans à l'époque, et puis maintenant, ça s'est un petit peu étendu, mais voilà.
Donc le profil des personnes qui sont accueillies, tu le connais, tu as l'expérience. C'était un poisson dans l'eau,
Ce qui m'a beaucoup rassuré, parce que je devais passer sur des fonctions de cadre sans aucune expérience de cadre et sans aucun diplôme de cadre, on y revient, en permanence. C'est la même chose.
Oui, mais l'expérience serait aussi que...
voilà. Dans une nouvelle association, en plus, un nouvel employeur, un nouveau environnement, mais avec une connaissance certaine du sujet, du secteur, du public, etc. Donc ça a été, voilà. Sauf que j'ai découvert que devenir cadre, c'est pas s'occuper du public, en fait. On change de métier, en fait.
On reste dans le même secteur, mais c'est pas les mêmes
missions. J'ai arrêté d'être travailleur social à ce moment-là, c'est clair, c'est clair et net. Alors bien sûr, je caricature. On est amené à donner prendre plein de décisions pour ce public, donc le connaître, c'est même pas une plus-value, c'est un incontournable, c'est nécessaire.
C'est mettre du sens aux décisions, c'est clair.
Je suis reparti à zéro, c'est une nouvelle carrière qui a démarré, c'est-à-dire que On apprend à gérer des organismes, des personnes, des travailleurs sociaux, des salariés, des financeurs, des supérieurs hiérarchiques qui sont à d'autres niveaux, des partenaires qui sont sur un autre mode de communication, etc. C'est tout un nouveau métier. Alors, j'ai toujours peur de heurter, mais je peux dire quand même que les compétences nécessaires à être un bon travailleur social puisent dans les mêmes compétences internes et les mêmes choses que pour être un bon manager et un bon gestionnaire.
Ok.
Alors, je fais gaffe de ne pas me dire je gère les usagers comme je gère mes salariés. Parce que c'est pas ça
l'idée.
C'est pas ça. Mais ces compétences de comprendre ce que l'autre ressent, ce qu'il veut dire, ce qu'il comprend.
Le lien que tu utilises avec
chemin,
ton équipe.
Voilà. Ouais. Tout ça, quand on le fait pour les usagers et qu'on l'éprouve, ben, c'est des compétences transférables dans leur relation à des salariés. Voilà.
Toujours avec des humains, mais humains qui sont différents, dans différentes sphères.
La façon de considérer l'autre, de respecter l'autre, d'être son égal, ça marche pour les usagers. Et ça marche pour la relation employeur-salarié, etc. aussi. Je crois que c'est mon leitmotiv, c'est d'être toujours l'égal de l'autre, ni plus ni moins. C'est-à-dire que l'autre est mon égal, moi je suis son égal. Mais je ne supporte pas qu'on me prenne de haut, et je ne prends personne de haut. Je pense que je suis dans ce rapport d'adulte à adulte, d'égal à égal, très important pour moi. Donc ça marche. Et tout serait tellement simple si tout le monde était dans ce rapport en permanence. Mais bon, voilà, c'est pas... L'humain se rend en finalement.
Oui, c'était le cas.
Okay, donc voilà, premier chef poste. De service, une équipe super soudée, sympa, ça tourne bien. Donc voilà, je fais ça pendant une première année avec une directrice très présente à ce moment-là, qui était mon... J'étais son binôme, on était un binôme de direction, on va dire. Et donc, cette posture d'être à deux et de ne pas être seul, donc avec quelqu'un qui assure mes arrières, qui me couvre et tout, donc c'est un vrai confort.
Ok.
Et quelqu'un qui m'a donné une confiance totale et qui ne craignait pas la concurrence, qui craignait pas que je lui fasse de l'ombre, au contraire, donc qui m'a mis en valeur tout le temps.
Ok.
Qui a été, donc, les meilleures conditions pour démarrer, quoi.
Ouais, j'imagine.
Un bon lien avec mon équipe, ça s'était plutôt bien passé. Enfin voilà, donc très bien. Et au bout d'un an, alors la question de la formation.
Au bout d'un an, c'était le drame.
C'est-à-dire que il s'est trouvé que dès mon arrivée, comme j'étais non diplômé, j'avais déposé une demande de CIF. C'est un dispositif de formation individuelle. Ouais. Normalement, il faut 7 à 9 ans pour obtenir un accord. Enfin, voilà, je l'avais fait pour dire, vous voyez, je suis volontaire, j'ai demandé, mais je comptais demander à mon nouvel employeur de me former. Sauf qu'au bout d'un an, ils m'ont accordé un CIF.
Ok.
C'était pas du tout prévu comme ça. Donc, au bout d'un an, j'ai dû m'inscrire et prévoir de démarrer une formation.
Ok.
Donc, qui démarrait en septembre. Je vous explique juste après la formation en question. Mais en même temps, ma directrice a évolué hiérarchiquement. Donc, je suis passé directeur adjoint, non plus chef de service d'un établissement, mais directeur adjoint de 7 dispositifs.
OK.
En créant un foyer de 50 places en 3 mois. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on nous a dit qu'il faut ouvrir. Et fin août, ça ouvrait.
OK.
Mon mois de août 2017, ça reste dans les mémoires. C'est-à-dire que...
J'imagine.
Je crois que là, j'ai atteint ma limite. je peux vous dire une phrase quand ma directrice me disait tu me suis là, tu es prêt à passer à l'étape. Je suis à 30% là, vas-y. Bon, je suis monté à 70-80 là.
Et ouvrir un foyer en 3 mois, c'est sûr que ça demande une énergie de dingue, en fait.
Il a fallu
tout imaginer,
les
tout
locaux,
penser, tout...
Les personnels, les usagers, tout le fonctionnement. Enfin, on est parti de rien et on a créé un truc de malade. Mais bon, donc c'est une grande fierté, hein, ceci.
Bien sûr, mais qu'il faut souligner ici, évidemment, puisqu'en plus c'était, sans forcément nommer, mais c'était le début en 2017 de ces structures nouvelles qui se développaient un petit peu partout. Et du coup, c'était comment faire pour pas être complètement déconnant des autres et comment faire pour accueillir dans de bonnes conditions, dans le respect dont on parlait tout à l'heure aussi. Ouais.
Et c'est l'endroit où j'ai pu exprimer une philosophie. Ouais. Parce que le reste, jusque-là, je prenais en main des choses existantes. Hein. On réécrit pas tout. Là, c'était une page blanche. C'était génial. Donc, j'ai fait cette année-là donc une formation en alternance et un master J'en ai perdu le nom. C'est le master en management et gestion d'entreprise. Okay. Voilà. C'est un master qui n'est pas du tout dédié au social.
Pourquoi tu as choisi ? Est-ce que tu as choisi ? Déjà, en fait, la question, c'est un peu
j'ai
plus
choisi
ça.
La facilité. J'ai choisi le master, je peux le dire. C'est la mauvaise version. Je l'ai choisi parce que c'était court.
Okay.
C'était en alternance. C'était pas le plus coûteux. Enfin, voilà, pour des raisons pratiques. Puis sur conseil de mon employeur qui envoie pas mal de cadres sur ce parcours-là. Donc, il y avait une espèce d'habitude chez cet employeur. Donc, je me suis inscrit là. Ça m'allait très, très bien. Master qui forme à la gestion d'entreprise. Et ça, c'est vraiment pas perdu parce que ma philosophie, c'est qu'on est dans des entreprises. Quand on est dans une association qui gère des dizaines d'établissements, qui a des centaines de salariés.
Bien sûr.
C'est une entreprise pour moi. À but non lucratif. Et il serait temps que le social soit géré par des entreprises et pas par des amateurs. Voilà. Qu'on soit professionnel avec des termes qui font peut-être hérisser le poil dans certains secteurs, mais dans certains cercles, mais de la performance, de la qualité. Voilà. Moi, c'est.
Que des termes d'entreprise, mais que tu transposes sur de la qualité d'accompagnement, de la qualité de service.
C'est toujours la difficulté parce qu'on est dans des métiers qualitatifs, on est dans des entreprises de service, service à la personne. Donc c'est difficile de quantifier, mais ça ne veut pas dire que du coup, c'est pas parce qu'on peut pas le quantifier qu'il n'y a pas de qualité ou il n'y a pas de choses à faire. Donc moi c'est un souci permanent. Et donc voilà, la création de cet établissement, qui s'est fait en même temps que mon master, c'est exactement ça, c'est produire la meilleure qualité avec les moyens qu'on a. Et si les moyens sont quatre fois moins que les autres, bon, on va produire une qualité deux fois plus quand même. Voilà l'objectif.
Ça, c'est ta philosophie.
C'est ma philosophie.
Ouais, ça, c'est ta marque de fabrique.
Arrêtons de dire il n'y a pas assez. Non, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a jamais assez. Les moyens ne sont jamais suffisants. Les problèmes des gens sont toujours là. Il n'y aura jamais moyen de s'impuis sans fond. Donc, de toute façon, les moyens sont toujours insuffisants. Donc, on peut se mettre en posture... j'ai pas assez, et puis se plaindre. Bon, moi, je suis encore pas aigri à ce point-là. moi, je dis, on nous donne des moyens. Quelle est la meilleure utilisation qu'on peut en faire ? Comment, avec ce qu'on a, on peut faire le plus possible ? C'est ça, la performance, la rentabilité. Alors, attention, le terme fait mal, hein, rentabilité. Non, mais c'est ça, rendre rentable l'action, l'utilisation du moyen. C'est-à-dire qu'ils produisent le plus possible. Donc voilà, on est sur cette philosophie. Je dis on parce que mes équipes de cadres et mes équipes professionnelles sont aussi dans cette optique-là, mais c'est une philosophie voilà, de qualité, d'être toujours satisfait de ce qu'on fait. Parce que le jour où on le fait et que c'est pas satisfaisant, ça j'arrive pas à m'y faire. Et puis de refuser de faire mal. C'est-à-dire si c'est pour faire n'importe quoi ou d'avoir des choses très insuffisantes, on le fait pas.
C'est ça, tout simplement. Je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais du coup, dans cette philosophie-là, tu te mets toujours en mouvement. Tu es toujours en recherche de moyens qui soient pas, enfin, parfois financiers, mais pas forcément que, en fait, de moyens humains. On va aller interpeller telle personne, peut-être qu'elle va pouvoir venir nous soutenir sur ce point-là parce qu'on a repéré le besoin dans les services et que, du coup, ça t'amène à toujours développer et être en mouvement.
C'est ça. C'est de la recherche et développement. Voilà des termes d'entreprise hein, appliqués au social.
Oui,
c'est en recherche, c'est très prétentieux, puisque moi qui n'ai pas lu un seul bouquin, je serais bien mal avisé de dire que je fais de la recherche. C'est de la stratégie, c'est de la différenciation d'entreprise, c'est proposer une offre différente de l'existant, c'est s'adapter à l'environnement socio-économique du moment, c'est suivre les tendances aussi, parce qu'on peut se dire, ah ben non, ça c'est une tendance, oui, mais si on le fait pas, on meurt. Donc autant, on va le faire, mais on va suivre la tendance et la prendre et la faire à notre sauce. C'est-à-dire que nous, on va en faire quelque chose de bien, on va pas s'autoriser, etc. C'est une philosophie de travail.
Ok. Donc tu deviens directeur adjoint en montant un service. En gérant, parce que là on a fait le focus sur l'ouverture de ce service, mais du coup tu prends des fonctions de direction adjointe.
Voilà, effectivement, je prends la direction adjointe et ma directrice s'était prise sur d'autres niveaux, donc j'ai été directeur adjoint, mais autant quand j'étais chef de service, j'étais presque directeur adjoint, et là quand j'étais directeur adjoint, j'étais presque directeur.
Hein, ok.
Donc, clair. Donc avec. Un CHRS toujours, un service d'accompagnement au logement, un CER, centre éducatif renforcé,
okay.
Qui accueille des mineurs placés par la justice.
Donc là, tu travailles avec des nouveaux interlocuteurs aussi que du...
Complètement, avec un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, qui est dans le domaine du handicap.
Ouais.
Et donc, la particularité, c'est d'avoir un secteur, parce qu'on peut gérer 5 établissements. Si vous gérez 5 maisons de l'enfant ou 5 ESAT, bon, vous le faites une fois, vous le faites 5 fois, c'est pourquoi pas. Mais là, c'est-à-dire que quand je dois avoir un interlocuteur, un financeur, ben, j'en ai 4 ou 5 différents.
Ouais,
et ils ont 4 ou 5 façons de travailler, 4 ou 5 attentes, 4 ou 5... veille sociale à avoir, etc. Tout est démultiplié et c'est ce qui fait aussi la particularité de mon poste, c'est d'être sur des établissements presque qui n'ont rien à voir et que je pourrais diriger sans qu'il y ait de lien entre eux.
Mmh, bien sûr.
Alors évidemment, puisque quand il y a un trou, ouais. Évidemment, je m'échine à rendre les choses, à lier les choses, à faire. Voilà. C'est comme. J'ai repensé, c'est comme 3 gros rouages, 3 gros engrenages, et qui tournent indépendamment les uns des autres. Je sais pas si on peut avoir l'image comme ça quand je la décris, mais moi je crée des petits rouages qui viennent entre les deux grands.
Ouais.
Voilà, en permanence. Alors je monte plein de projets, plein d'actions qui font rapprocher mes équipes et mes établissements.
Qui font du lien.
Et qui donnent de la richesse en fait. Parce que le CER dans son coin, il fait très bien le CER, et puis le CHRS, il fait très bien le CHRS, mais. Justement, la richesse, elle vient du partage et de l'échange, de l'infusion entre les uns les autres, etc. Donc voilà, c'est mon travail aujourd'hui. J'ai encore changé de métier parce qu'en tant que directeur adjoint ou directeur, je gère des cadres et non plus des équipes de professionnels. C'est encore un autre métier.
Un autre challenge.
Donc ça fait un an que je suis directeur hein, de ces services.
T'es resté directeur adjoint du coup
pendant 4 ans.
4 ans.
Ouais, à peine. Oui, 4 ans.
Et très vite du coup ou pas, enfin c'est pas une sorte de rapidité, mais t'es propulsé sur une fonction de direction où là t'as le filet dont tu parlais tout à l'heure.
Très grosse différence.
Il n'y a plus de filet, quoi.
Je gérais le même champ, j'avais les mêmes fonctions quand j'étais directeur adjoint, honnêtement. Ça, la marche n'était pas très importante, mais il y a une marche. Mais c'est surtout que j'avais quelqu'un qui couvrait tout ce que je faisais et qui était la responsable, qui était mise en avant. Moi, je ne faisais que travailler dans l'ombre. Et puis, s'il y avait des problèmes, c'était elle qui les assumait. Et là, je me suis retrouvé à être cet échelon-là. Donc, c'est bien différent. Et puis, même en termes de posture, de gestion. Là, mon poste, il est quand même responsable du navire, quoi. C'est-à-dire responsable de la stratégie, de l'orientation, de tout un ensemble. Ouais. J'ai gagné en confort parce que il y a des étapes intermédiaires quand on est chef de service où on est à la fois en train de gérer les petites cuillères, les tuyaux d'arrosage, hein, les fuites.
On est l'intermédiaire, le cadre intermédiaire. Il y a un spectre très large.
Soyons clairs, c'est le plus dur hein, dans tout ce circuit. Hein. Ce n'est pas le directeur hein, qui a le plus de difficultés. Ça, c'est des fonctions. Voilà, on est des petites cuillères jusqu'au rapport d'activité et défendre son beefsteak devant des financeurs quand on est cadre intermédiaire. Et on est à la fois celui qui se fait engueuler par les usagers pas contents, par les salariés pas contents, par le directeur pas content, le financeur pas content. C'est vrai que c'est celui qui il concentre. Donc moi, je me suis retrouvé finalement dans ce poste de direction avec peut-être un gain de confort concrètement, mais avec une charge mentale plus angoissante, plus difficile.
Responsable. C'est cette question de responsabilité qui est... Oui, bien sûr.
Et puis, plus on monte dans les statuts comme ça, plus chaque décision, elle a un impact énorme. Voilà. Elle touche plus de salariés. Si je fais un oubli, c'est énorme. Voilà. Donc, on peut pas... Voilà. Alors, on s'entoure de personnes qui pensent à notre place en permanence, à nos côtés. Non, mais enfin, voilà. Après, c'est une question de fonctionnement, de gestion. C'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai bâti ma fonction de manager et de cadre, c'est le recrutement. Je me suis beaucoup attelé à soigner mes recrutements. C'est-à-dire que les personnes doivent être à leur place, à la bonne place. Les bonnes personnes à la bonne place. Et ça c'est pour moi le secret, la clé du fonctionnement de la réussite. La personne, elle peut avoir toutes les qualités du monde. Si elle est à un endroit où elle n'a pas envie d'être ou qui ne lui convient pas, ça ne marchera pas. Et quelqu'un qui est super à un endroit n'est pas forcément super partout et vice-versa et inversement. On peut ne pas fonctionner là et très bien fonctionner ailleurs. Mais ça, c'est pour moi la clé. Et d'avoir que je veux que des pépites. Moi, je veux que des gens merveilleux. Je veux que des gens que j'admire et à qui j'ai une confiance sans frontières. Enfin, voilà.
Ouais.
Je veux. C'est une exigence. Alors, je suis très exigeant le niveau des gens. Je veux qu'ils soient tous au top. Ça m'oblige une exigence aussi en retour. Voilà. Je trouve qu'on peut pas s'autoriser d'être maltraitant, un mauvais employeur, un mauvais soutien, un mauvais guide. Enfin, voilà. Donc, c'est donnant-donnant.
T'avais une phrase que tu as dit une fois, je veux des travailleurs sociaux plus, je veux des cordeaux plus qui sont déjà presque des chefs de service, je veux des chefs de service plus qui sont déjà presque des directeurs adjoints ou des directeurs. Et du coup, quand on t'entend dire ça, tu ambitionnes les gens, en fait.
Oui.
Tout comme je pense tu l'as vécu, t'as pas peur que on te fasse de l'ombre, tu veux juste apporter aux gens la manière de se propulser un petit peu et d'aller vers où ils ont envie, mais finalement comme tu le faisais quand tu étais travailleur social.
Mais exactement.
Aller là où vous avez envie, aller là où vous vous sentez bien, tu as transféré encore une fois tes compétences sur tes différents postes, il me semble.
Oui, complètement. Moi, je vois chaque personne comme quelqu'un à supporter, il faut, dans le bon sens du terme, attention.
Oui, supporter.
C'est un ignorantonisme qui veut dire deux choses un peu contraires. Voilà, je lis pas, mais je dis des mots des mots savants. Ignorantonisme, c'est un mot qui veut dire deux choses, comme le verbe louer, qui veut dire être celui qui loue l'appartement ou celui qui est locataire de l'appartement. Voilà. Oui, il faut apporter son support à chaque personne pour qu'il aille, pour qu'il nous surprenne puis qu'il nous éblouisse. Moi, voilà, j'ai que ça comme ambition dans la vie, c'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait.
D'accord. Si tu avais un avis sur ton début de carrière, le travail social en tout cas que tu as connu en début de carrière et le travail social d'aujourd'hui. Alors, tu as donné quelques éléments de réponse, je trouve, sur cette question quand tu as dit pour moi, les moyens, c'est pas le nerf de la guerre finalement, c'est ce qu'on en fait. Mais voilà, est-ce que tu aurais un avis sur une évolution du travail social entre celui que tu as connu au départ et celui d'aujourd'hui?
Je le disais tout à l'heure aussi, moi je suis arrivé au moment où on quittait cette C'est la préhistoire du social. Tout le monde faisait tout et n'importe quoi. Il y avait pas, c'était sans limite, hein, vraiment. Je l'ai aperçu ça quand je suis arrivé, mais ça y est, c'était la fin. Les vieux éduques de l'ancien temps commençaient déjà à partir et tout. Et puis on est rentré dans cette phase très professionnelle. Voilà. Donc ça, c'est un vrai plaisir parce que je trouve que c'est une plus-value. Il fallait qu'on aille sur ce secteur. Moi, vous m'avez entendu dire que je veux qu'on soit une entreprise, qu'on soit professionnel, qu'on ait... Voilà. Mais il ne faut pas perdre l'imagination, le feeling. Et ça, ce n'est pas à l'école, quoi. Il n'y a pas d'école de diplôme d'imagination et des diplômes de feeling, quoi. Donc, il ne faut pas perdre ça quand même, parce qu'on est sur de l'humain, des métiers liés à l'humain. Et... Tout rentre pas dans un livre et dans des cases. Et voilà, il faut réussir à sortir des cases et des choses trop tracées, trop organisées quand même. Il faut une marge de manœuvre, en fait. Il faut qu'il y ait de la souplesse. Mais je pense que ça, c'est pas lié forcément à l'évolution du secteur, mais à mon évolution personnelle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très carré à l'origine et j'ai appris à arrondir les angles, à devenir à mettre du rond dans mes carrés. Voilà. J'ai toujours besoin d'un carré autour, mais dedans, on peut faire des trucs quand même. Mais voilà, c'est plus mon évolution personnelle, je pense, qui fait que je viens maintenant sur attention, n'oublie pas d'être un peu un inventeur, quoi. Ouais. Un peu fou, un peu voilà, faut sortir des sentiers battus. Et alors, ça paraît improbable. Et alors, justement, c'est peut-être pour ça que qu'il faut le faire.
Peut-être aussi ta place qui te donne cette amplitude-là aussi, aujourd'hui, d'avoir la disponibilité et, entre guillemets, la mission de créer. Donc forcément, tu peux t'autoriser à imaginer beaucoup de choses en gardant tes philosophies dont tu parlais tout à l'heure.
Bon, je pense en plus... Aujourd'hui, je fonde ma vision du travail social sur le fait de développer une pensée complexe. Je trouve qu'on est trop dans justement les cases. C'est ça ou ça. Est-ce qu'on décide, on le garde ou on le garde pas. Il mérite ou il mérite pas. Ça réussit ou ça marche pas. Voilà. Et je n'en peux plus de ce côté très binaire dans tout. On nous demande ça en permanence, hein, d'avoir un avis, de faire un diagnostic, de trancher, de caractériser les choses. Alors que on est dans un système très complexe. Tout peut être interprété à un moment T et n'est pas valable le lendemain, n'est pas valable selon le regard. Et si on le regarde sous... Si un autre professionnel avec une fonction très différente... Par exemple, à l'accueil d'urgence, la personne qui servait les repas, la femme de service,
ouais,
je crois qu'elle avait peut-être la meilleure vision des gens de toute l'équipe, finalement. C'est elle qui les connaissait le mieux.
Oui, bien sûr. Voilà. C'est elle qui était au contact, voilà, quand ils n'avaient pas la petite pression, les personnes, de se dire « Ah, c'est un travailleur social qui m'évalue ».
Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'on doit aller sur une... Ne pas oublier qu'on doit développer une pensée complexe et multiplier les regards, les interprétations, se mettre soi-même des freins en se disant « Attention, je pense ça aujourd'hui, peut-être que je me trompe. Mm. » C'est un avis, mais j'ai pas tous les éléments. On peut pas avoir tous les éléments d'une situation, d'une personne. On sait pas, il y a tellement de choses. Donc, je pense que ça, c'est un de mes deux piliers. Mais ça marche si mon deuxième pilier est là, c'est le pragmatisme. Et depuis le début, vous avez vu que je suis dans le concret, dans l'expérience, dans le... Voilà. Le pragmatisme, ce qui fait qu'on ne reste pas bloqué dans cette pensée. Parce que c'est tellement complexe, finalement, on pourrait penser juste pour penser, quoi.
Et ça empêche d'avancer. Voilà. Ouais.
Donc moi, je développe des fonctionnements très pragmatiques. On réfléchit, c'est sûr. Et après, bah, on fait. Et puis, on fait, si ça marche pas, bah, on arrête, on change. On sait pas, il y a trois solutions possibles, les trois sont aussi défendables l'une que l'autre. Bah, on en essaye une, puis si ça marche pas, bah, tant mieux, on a encore deux plans B et C. Donc voilà, on est dans du concret, il faut relativiser les choses, il faut aller dans des choses, non mais arrête de réfléchir trop longtemps. Vas-y, on verra.
Mais il faut s'autoriser, c'est ça, voilà. Du coup, que tu mets en place. Tu t'autorises à essayer.
Penser de manière complexe en étant pragmatique. Les deux ensemble, ça marche. Si on n'est que pragmatique, on rate toute une partie des choses. Si on ne fait que penser, ça, voilà, on ne fait rien. Mm-mm. Donc, il faut réussir à associer ces deux éléments. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis un peu dans ce tunnel-là.
Okay.
Mais comme là, pourquoi c'est complexe, me le fait dire. C'est aujourd'hui, dans ce que je fais là, oui. Et peut-être que ça s'applique pas partout, et puis que d'autres y avaient pensé il y a bien longtemps, que je suis moi qui n'ai pas lu. je n'invente rien, sans doute. J'espère que j'invente rien, surtout.
Eh bien, on va conclure l'entretien sur ces dernières paroles qui sont quand même empreintes de beaucoup de positif, moi je trouve en tout cas. Donc en conclusion des interviews que j'ai avec les personnes que je rencontre, elles passent par 3 questions et toi, vu que tu es le deuxième, ben t'en auras 4. Ouais, j'expliquerai par la suite. Je vais te poser une question. Donc, si tu avais la fameuse baguette magique qu'on entend beaucoup, beaucoup parler dans le social, quand par exemple on est justement sur un frein, on bute avec une personne ou un système, on se dit ah, si on avait la fameuse baguette magique, bah, si tu l'avais en fait, qu'est-ce que tu ferais?
C'est une question très, très difficile. Je voudrais pas de baguette magique. Je pense que...
Est-ce que ça m'étonne que tu répondes ça? Je ne sais pas. Avec l'entretien qu'on vient d'avoir, je suis pas trop...
Moi, je pense que le chemin... Alors ça, c'est la philosophie du comptoir. Hein, mais le chemin, il est bien plus important que la destination et l'arrivée. C'est-à-dire que si on résout les problèmes par une baguette magique... Il n'y a rien de résolu, en fait. La personne, si elle n'a pas résolu elle-même ses problèmes en faisant le chemin qui l'amène vers la victoire, ben, si elle ne fait pas ce chemin-là, elle ne peut pas assumer la solution.
Oui.
Si j'avais une baguette magique, je donnerais du courage à tout le monde, voilà, pour faire ce chemin. C'est tout. Il faut du courage parce que je suis très ému, moi, de la souffrance des gens et le courage. Ils se plaignent quand même vachement peu. Et puis... Ils ont des leçons à nous donner à tous, quoi.
Et toute la résilience qu'ils peuvent mettre en place.
On se plaint en permanence et tout, mais voilà, il y a un moment, on est face à des gens qui ont des parcours et des histoires tellement dramatiques, tellement horribles et qui ont été vraiment laissés face à ces difficultés seuls. Et voilà, je leur donnerai du courage à tous. Voilà.
D'accord, merci pour cette première réponse. On fait juste un petit détour, mais si tu devais faire quelque chose ou si voilà, tu avais dû changer à un moment donné, qu'est-ce que tu aurais aimé faire?
Comme métier?
Oui, comme métier, ouais.
Ah, moi, j'aurais adoré être animateur, mais animateur de dessins animés. Voilà.
D'accord.
C'est marrant parce qu'il a le même nom. Mais il donne la vie. Hein. Animé, c'est donner la vie. Et voilà. Bon, c'est
ok, ça aurait été
un rêve truc. Comme ça, voilà, que j'aurais adoré réaliser.
Donc, ouais, on sort du secteur. Ouais. Donc, la tradition, j'ai envie de dire tradition, mais même si ça fait pas beaucoup d'épisodes que j'enregistre, mais veut que le premier invité a posé une question au deuxième invité. Voilà, et que toi, tu auras aussi la chance de pouvoir poser une question au prochain invité, ou je ne sais voilà, pas forcément qui ce sera, dans quel ordre en tout cas vont se présenter les épisodes, mais la question de l'invité précédent, c'est comment on donne envie aux jeunes professionnels de s'engager et comment on leur donne envie de travailler dans nos services. Voilà, ça c'est la question à laquelle tu peux répondre.
Ça va être cohérent avec ce que j'ai pu dire jusque-là, mais il faut croire en eux, leur montrer qu'on croit en eux. Il faut croire, même quand eux, ils n'y croient pas d'ailleurs, il faut avoir l'ambition pour eux, quand ils ne l'ont pas. Mais, et puis quand ils l'ont, il faut savoir l'utiliser. Oui, c'est les considérer comme... c'est eux, notre avenir. C'est peut-être de le dire comme ça, c'est des banalités, mais non, mais c'est d'y croire, c'est de leur donner aussi... un projet, quelque chose de une comment dire, une vision, un but à atteindre. Quelque chose. Voilà, c'est pas juste un poste, t'y es, puis ça y est. Là, c'est pas la destination, c'est le début du chemin, là, pour le coup. Quand ils arrivent là, moi, j'ai envie de leur dire ça.
Okay.
Tu vas voir le chemin qu'il y a devant, là, c'est génial, vas-y. Mais t'es qu'au début. Donc, tu vas ramer un peu, hein. Tu vas avoir des bras comme ça. Non, non, vraiment, c'est ça. C'est y croire avec eux, y croire en eux, surtout. Et moi, j'ai des gens qui ont 20 ans qui me donnent des leçons de ouf, quoi. Moi, j'adore, parce que... Voilà.
Ça, ouais. Ça rejoint effectivement beaucoup ce que tu, enfin tout, ouais. Tout le sens que tu as donné à notre échange. Ok, alors et ben du coup la question au prochain invité, qu'est-ce que tu aimerais poser comme question à cette personne?
J'aimerais avoir l'avis du prochain invité sur la question de du social. Est-ce qu'on est des entreprises, une entreprise okay. à but non lucratif? Voilà, okay. Je défends cette idée, mais.
Ça t'intéresserait d'avoir un avis.
Je sais que si on est dans un tout petit, si on est bénévole ou dans une petite unité, une petite association, ça peut être une question un peu qui parle pas. Hein, je voilà. Puis moi, c'est de mon point de vue de gestionnaire maintenant que je suis. Hein, c'est normal. Voilà, mais c'est une question qui m'intéresse.
Ok. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange qui est très enrichissant de voir tout un parcours, plein de possibilités en fait que tu as saisies mais que tu t'es créé aussi. Voilà, et bien merci beaucoup Najid et à bientôt.
Merci beaucoup.
Invisible voice for unstoppable choice. Invisible voice for unstoppable choice. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable.